What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Aujourd'hui, comme invité, on a une avocate incroyable qui travaille en droit carcéral et qui représente notamment ses clients dans des dossiers de libération conditionnelle devant les commissions de libération conditionnelle. Donc, c'est Maître Alexandra Paquette. Donc, bienvenue, Maître Paquette.
Merci, merci beaucoup.
Donc, c'est ça, on va parler aujourd'hui de droit carcéral et on va faire des liens avec le profilage racial. Et puis, Maître Paquette, justement, va un petit peu nous expliquer c'est quoi le droit carcéral, puis un peu démystifier ce domaine de droit qui est peut-être moins connu. Donc c'est ça, comme je l'ai dit, elle pratique en droit carcéral, représente ses clients devant les commissions des libérations conditionnelles. Elle s'assure également du respect des droits fondamentaux de ses clients en les accompagnant dans le processus de plainte en matière de discrimination devant la Commission canadienne des droits de la personne. Puis elle exerce aussi devant la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire et de mandamus. Donc Maître Paquette, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter?
Oui, plusieurs choses à ajouter, mais c'est pas mal ma biographie, oui. droit carcéral, c'est très niché là. Je pense que au Québec, on est très peu d'avocats et avocates qui ne font que ça, ce qui fait en sorte que disons que mon quotidien est débordé, très débordé. Donc oui.
Super. Puis justement, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'œuvrer dans le domaine carcéral?
Pour ma part, c'est un concours de circonstances. J'ai fait une technique juridique avant d'être en droit. Et, en technique juridique, on doit faire un stage. Et, j'avais pas trouvé de stage. Bref, j'avais été engagée par le ministère de la Famille, si je me trompe pas. Puis, out of the blue, manque de financement. Donc, j'ai plus de stage et on est à 3 semaines du début. Mm-hmm. Et là, mes professeurs avaient été mis au courant. Puis, j'avais trouvé comme ça un stage sur le fly en droit criminel dans le cabinet où je suis actuellement. Et c'est drôle parce que mon associé me disait, encore à ce jour, il me disait, Alex, c'est bien parce qu'on me l'a demandé de t'engager que je t'ai prise parce que t'avais vraiment pas l'air motivée. mais tu sais, moi, je m'enlignais pour faire du droit de la famille. Puis finalement, j'ai adoré. Et mon associée, Rita Francis, elle faisait du criminel à ce moment-là, mais elle faisait aussi du droit carcéral, pardon. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le milieu, je suis tombée en amour avec la clientèle. C'est un milieu où on est à tous les jours en contact avec les clients, que ce soit par téléphone ou en personne. Tu sais, je fais souvent la blague, et mes collègues qui font pas du droit carcéral, ils rient souvent quand je leur dis, je te rappelle quand je sors de prison. Mais tu sais, c'est dans mon quotidien, moi, c'est ça mon quotidien, donc je passe ma vie en prison, mais je ressors à toutes les fois. Donc, voilà comment je me suis retrouvée là-dedans.
Super. Puis, en fait, vous avez fait votre stage de technique. Ensuite, vous êtes allé en droit.
Oui, c'est ça.
Puis, vous avez fait aussi votre stage du barreau là-bas?
Ouais.
OK, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ils ont comme pas eu le choix de me prendre par la suite.
Ouais.
Puis, j'ai fait mon stage de technique juridique. Au cabinet où je suis. J'ai travaillé à temps partiel au cabinet où je suis durant mon bac. Et, j'ai fait mon stage du barreau là-bas. Et, après ça, ils m'ont pas embauché parce que j'étais travailleur autonome, mais je me suis associée au cabinet. Donc, on partageait nos dépenses et tout. Mais, j'ai toujours été travailleur autonome à ce cabinet-là. Et là, tout récemment, en fait, un peu avant cet été, maintenant, on a ajouté mon nom sur la bannière. Donc, voilà.
Félicitations.
Ouais. Merci.
Et puis, en fait, c'est peut-être, on aimerait démystifier un peu, comme vous avez dit, c'est un domaine plus niché, tout ça. C'est quoi, de manière concrète, le droit carcéral? À quoi ça ressemble vos journées? Une journée typique là dans la vie de Maître Paquette.
Oh boy. J'ai commencé par décortiquer le droit carcéral. Moi, je le sépare toujours en 3 parties. Donc, premièrement, tout ce qui est libération conditionnelle. Donc, évidemment, il y a le il y a toujours le droit, en fait, fédéral et le provincial. Donc, dépendamment de la longueur de la sentence, ce sera devant la Commission canadienne des libérations conditionnelles ou la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Donc, c'est vraiment d'accompagner la personne incarcérée pour la faire sortir la plus rapidement, oui, mais aussi s'assurer de sa réhabilitation parce qu'évidemment, on veut qu'elle chemine à l'intérieur des murs, mais on veut aussi qu'elle ressorte. Ça, c'est la première partie. Pardon. La deuxième partie, c'est tout ce qui est disciplinaire. Donc, à l'intérieur des murs, surtout au fédéral, moi, ma pratique se concentre davantage en droit fédéral, donc 2 ans et plus de peine d'incarcération. Et il y a ce qu'on appelle la cour disciplinaire, et c'est un juge, un président indépendant qu'on appelle, qui est un juriste dans la plupart des cas, et qui applique la loi, c'est-à-dire, par exemple, on peut pas, ça a l'air stupide, là, mais on peut pas, les détenus ne peuvent pas avoir de couteau, d'armes dans leur cellule, mais évidemment, ça arrive, là, on se le cachera pas, ils peuvent pas avoir de drogue, ils peuvent pas avoir d'alcool, ils peuvent pas se battre non plus, donc ils ont comme un code de vie à respecter, et quand ils ne le respectent pas, ils sont rapportés, comme on dit, devant la cour majeure et ils ont droit à un avocat. Ils ont droit à un avocat parce que ça a un impact directement sur leur droit à la liberté résiduelle. C'est pas parce qu'on est détenu qu'on n'a plus de droit. Et donc, comme ça a une incidence probablement, ça aura une incidence probablement sur leur parcours carcéral, mais ils ont droit à un avocat. Et ça, c'est moi dans mon travail, c'est ce que je préfère. C'est comme en fait toutes les règles en matière criminelle s'appliquent, mais dans des comme mini procès à l'intérieur des murs. Fait que t'interroges des agents correctionnels à longueur de journée. Donc ça c'est la deuxième partie. Et c'est la présomption d'innocence qui s'applique à ce stade-là aussi. Et la troisième partie, c'est tout le reste finalement. Donc tout le respect des droits fondamentaux. Par exemple, accès à des soins de santé adéquats. J'ai dû déposer un mandamus à la Cour fédérale parce que mon client avait pas. Ça faisait plus que 2 ans qu'il attendait pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Et là, bon, moi, je suis pas dentiste, là, mais clairement, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, c'est ça. Donc, faire respecter leurs droits fondamentaux. Et aussi, c'est ça. Dans ma pratique, je me suis comme développée une espèce de spécialisation pour l'accompagnement des détenus trans. En ce moment... Ben dans ma pratique jusqu'à maintenant, j'ai accompagné 2 personnes qui s'identifiaient, qui étaient nées biologiquement hommes, mais qui s'identifiaient femmes. Et donc ils avaient été incarcérés dans un pénitencier pour hommes. Et je les ai accompagnés. Une elle est maintenant rendue dans un pénitencier pour femmes. Et une autre qui est, on est plus tôt dans le processus, donc on est en train de faire avancer son dossier. Donc, c'est un peu ça, 3 étapes, 3 parties.
Mais c'est super intéressant comme domaine de droit, puis je pense que ça devrait être plus exploré peut-être par les jeunes juristes la relève. Ouais. Puis justement, ça amène au vif du sujet. Quel lien est-ce qu'on pourrait faire de manière générale, on va revenir là-dessus, entre le droit carcéral et le profilage racial?
Là, je vais parler vraiment plus pour le côté fédéral, parce que provincial, c'est moins clair, mais mon expertise est davantage en fédéral. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les détenus les personnes qui sont sentencées à une peine d'incarcération de plus de 2 ans, transitent par le centre régional de réception qui est situé à Saint-Anne-des-Plaines, je parle du Québec, là. Mm-hmm. Et donc, une fois qu'ils arrivent là-bas, c'est l'admission. Donc, ils se font évaluer pendant une période qui oscille entre 90 et 120 jours. Et là, on va vraiment étudier tout leur dossier. C'est-à-dire, d'abord, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui est arrivé, mais aussi aller dans leur enfance, pourquoi ils se sont engagés dans la vie criminelle, si on peut dire. Et à ce stade-là, on va regarder s'ils ont des affiliations. Mm-hmm. À des groupes menaçant la sécurité, donc mettons gang, là, on peut dire. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que moi j'envoie du profilage racial, c'est très facile à faire. Là, je veux dire, on demande à des agents correctionnels de identifier si oui ou non la personne elle est affiliée à un gang de rue ou à un groupe menaçant la sécurité. Et donc des fois ça part du service correctionnel, mais ça peut aussi partir bien avant, c'est-à-dire dans le dossier de cour pour lequel ils sont incarcérés. Si c'était par exemple la SPVM ou la SQ, est-ce que eux avaient identifié de prime abord cette personne-là comme étant gang de rue? Mais si oui, l'information va se trouver dans le dossier. Donc, le service correctionnel du Canada va se baser sur cette information-là pour affilier le détenu ou la détenue. Et c'est super important parce que cette identification-là va avoir une incidence sur le pénitencier vers lequel ils vont être transférés. Par exemple, une personne qui va être identifiée affiliée gang de rue, ben elle va être transférée vers un pénitencier qui est dédié pour les gangs de rue. Et malheureusement, bon, c'est pas... Le service correctionnel s'en vante pas, mais malheureusement, il y a moins de programmes qui se donnent là-bas et les listes d'attente sont plus longues. Et donc, incidemment, les chances de sortie sont plus minces parce que si t'as pas... On te demande de faire un programme correctionnel, mais si t'as pas eu la chance ou l'opportunité de le faire parce que t'étais, je sais pas, 20e sur la liste, puis que le programme s'est donné juste une fois dans ton pénitencier, ben il y en a qui ont pas fait le programme. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas travaillé sur eux. Et donc, ils ne rencontrent pas nécessairement les critères pour être remis en liberté, en libération conditionnelle, en tout cas. Donc, ça, c'est une chose. Mais aussi, veux pas, l'espèce de mentalité qui se trouve dans les pénitenciers qui sont, disons, plus gang de rue, ben il y a certains conflits qui persistent à l'intérieur des murs, il y a une espèce de mentalité qui se poursuit là-bas. Donc, pour un individu qui a décidé, lui, de s'en sortir, qui peut-être avait été affilié dehors, peut-être qu'il était impliqué dans les gangs de rue à l'extérieur, mais qui a envie de s'en sortir, ben on le remet dans ce même milieu-là, on le remet dans les fréquentations qu'il avait probablement à l'extérieur, donc c'est un peu voué à l'échec. Puis après ça, ben on se demande pourquoi la personne récidive, alors qu'on lui a pas vraiment donné la chance de s'en sortir.
Puis justement, au début, vous parliez du fait que vous travaillez aussi en termes de respect des droits fondamentaux des détenus. Puis, bon, quand on regarde la législation canadienne, on prend compte comme 4 droits fondamentaux, donc le droit à la liberté, le droit à un procès, ça c'est avant, bien sûr, l'incarcération, le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, et au moment de l'arrestation ou de la détention, l'individu doit se faire dans le respect de la dignité humaine. Donc c'est ça, je voulais en venir à la dignité humaine. Puis c'est ça, c'est le dernier droit fondamental et non le moindre. Puis ça s'applique aussi bien à une personne prévenue qu'à une personne détenue dans le cadre d'une peine. Dans le domaine carcéral, j'imagine c'est ce droit-là qui nous intéresse le plus. C'est quoi les éléments les plus importants du respect de la dignité humaine? Puis est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Ouais, ben en fait, je pense que il y a la dignité humaine, mais c'est beaucoup en corrélation avec la liberté. Parce qu'on parle, tout à l'heure, je parlais de liberté résiduelle, ben c'est ça. C'est oui, on incarcère une personne, sauf que, donc, tu sais, sa liberté physique, elle est restreinte parce qu'elle est incarcérée, mais il y a ce qu'on appelle la liberté résiduelle, puis c'est ça le droit carcéral, c'est le reste. Dans le sens où, c'est pas parce que t'es incarcéré que tu perds tous tes droits, puis, donc c'est ça, liberté résiduelle et dignité humaine, ça va un peu ensemble, dans le sens où, et de la manière qu'on, en tant que société, qu'on traite nos détenus, ça en dit beaucoup sur qui on est en tant que société. Puis, je dis souvent que c'est pas parce que on est incarcéré qu'on jette les clés de sa cellule, dans le sens où même les gens qui sont incarcérés pour meurtre, ils sont censés ressortir. On est au Canada, on n'est pas aux États-Unis qu'on a des peines de 150 ans. On a la sentence à perpétuité, c'est 25 ans minimum. Tu peux être incarcéré, libéré avant, mais le maximum de ta date d'éligibilité pour essayer d'être mis en liberté, c'est 25 ans. Donc, même si c'est loin, on va essayer de te remettre en liberté. Et c'est là, à mon sens, où la dignité humaine est importante, parce que si tu traites une personne comme un chien, par exemple, ben la personne va pas vouloir faire partie de cette société-là.
Ben oui,
elle va pas. Ben c'est ça. Qui la traite. Qui continue à la traiter comme peut-être elle avait été traitée avant. Puis tu sais, c'est la majorité des détenus, c'est des gens qui ont souffert quand ils étaient plus jeunes, qui reproduisent ce qu'ils ont vécu ou qui reproduisent, pardon, ce qu'on leur a fait vivre quand ils étaient plus jeunes. Donc, au niveau de la dignité humaine, c'est tout essayer de réparer les dommages que nécessairement la société a aidé à ce que ça se commette finalement. Tu sais, par exemple, un jeune même avant l'adolescence, au primaire, qui se fait battre par ses parents, comment ça se fait qu'on l'a pas vu? Tu sais, comment ça se fait que les enseignants ont pas report les choses, alors que après ça tu vas voir cette personne-là aller dans les centres jeunesse parce que bon, il a commencé à faire de la délinquance alors qu'il était adolescent, puis là ben ça monte jusqu'à éventuellement, ben, qui se ramasse dans le système fédéral. Donc, c'est ça. Puis, après ça, c'est de dire, ben, comment est-ce que tu veux demander à quelqu'un qui se réhabilite si, il est pas capable de, par exemple, se concentrer parce qu'il y a un mal de dents? Aussi simple que ça. Mm-hmm. Et moi, j'ai rarement eu des mal de dents, mais les fois où j'en ai eu, j'étais pas capable de, je veux dire, ça monopolisait toute mon attention, là. Je ne pouvais pas, fonctionner. Ça, les lunettes.
Ouais.
T'es pas capable de lire.
Dans la vie de tous les jours.
Ben, fonctionner ou, tu sais, juste marcher mais juste marcher si t'as une blessure au pied. Tu sais, mm-hmm. c'est des choses, pour nous, c'est des choses de base, mais qui, pour un détenu, quand tu dois te battre pour avoir accès à des soins de santé adéquats, mais ça se peut que tu sois fâché contre la société.
Puis c'est une atteinte directe à ta dignité.
Ben oui.
Absolument.
Oui, c'est ça. Puis, puis souvent, mais, les détenus vont se rattacher à ça puis ils vont vraiment y tenir. Puis je comprends, tu sais, il y en a qui font pour une paire de lunettes, ils vont aller jusqu'à tu sais appeler le sénateur par exemple. Ben tu sais c'est leur seul droit qui leur reste. Ouais. Fait qu'il y en a qui vont jusqu'au bout puis qui font bien là. Moi je les comprends de faire ça. Donc c'est pour ma part la dignité humaine puis la liberté résiduelle ça va ensemble en tout cas en droit carcéral.
Puis aussi même si on revient à la question du profilage racial, il y a des statistiques intéressantes au niveau aussi du droit carcéral puis on pourra après faire des liens. Comme par exemple les communautés autochtones, elles représentent seulement 3% de la population canadienne, la population adulte canadienne, tandis que dans les services correctionnels dans les diverses provinces et territoires du Canada, ils représentaient 26% des admissions. Ça, c'est une statistique de 2016. Donc, c'est passé de 3% à 26%. Ensuite, c'est ça, la différence entre les taux d'emprisonnement des Autochtones et des non-Autochtones dans certaines juridictions, c'est plus prononcé que dans d'autres. On peut voir, par exemple, qu'au Québec, le pourcentage d'Autochtones condamnés à la détention est le double de leur part de la population du Québec, tandis qu'en Saskatchewan, c'est à peu près similaire. Puis pour les jeunes autochtones, encore une fois, c'est des statistiques quand même assez inquiétantes. Même si les jeunes autochtones âgés de 12 à 17 ans représentent seulement 7% de tous les jeunes de la population, en 2015, environ 35% de ceux-ci recevant des becs étaient dans le système d'enfants. Puis les filles autochtones représentaient 44% des inscriptions des adolescentes et les garçons autochtones 29%. Donc quand on passe de 7 à 35 et de 7 à 29, c'est quand même
choquant.
Mm-hmm. Puis si on parle des autres minorités visibles, selon un rapport SAPUS, donc le rapport d'un enquêteur correctionnel, le nombre de prisonniers autochtones a augmenté de 46,4% au cours des 10 dernières années, donc ça augmente là, au cours des années, et tandis que celle des autres personnes racisées a grimpé de 75%, donc c'est énorme. Puis en fait, lui, c'est ça, il pointe un peu du doigt le système carcéral, il souligne que la proportion des personnes noires en milieu carcéral, elle est trop élevée, mais qu'une fois en prison, la discrimination continue d'exister. Donc, tu sais, ces chiffres-là sont assez inquiétants, ça démontre vraiment une surreprésentation de plusieurs communautés dans le système carcéral, comme on peut voir une surreprésentation de plusieurs communautés en termes de profilage racial. Par exemple, les femmes autochtones, elles ont 11 fois plus de chances de se faire arrêter par la police que les femmes blanches. Les hommes noirs, arabes, c'est comme environ 4 fois plus de chances. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces observations-là, de ces statistiques-là? Puis, est-ce que vous, de votre expérience, vous voyez que, comme le dit le rapport SAPUS, que la discrimination continue d'exister même après?
Ben, est-ce que ça continue après? Je pense que c'est difficile de remédier au problème après, tu sais.
Surtout
que la personne, elle est incarcérée, elle a été reconnue coupable d'un crime, elle a une sentence à purger. Et par rapport aux observations, je veux dire, c'est vraiment ça, là. Je veux dire, à l'intérieur des murs, c'est ce qu'on voit. Puis c'est aussi que, surtout pour, on connaît très bien notre histoire, là, puis c'est très, très inquiétant qu'on demande, je veux dire, le service correctionnel du Canada, les libérations conditionnelles, c'est un concept de blanc. Et c'est un concept qu'on on demande à des détenus autochtones d'appliquer encore une fois un concept de blanc. Mmh. Et des fois, ben, ça clash. Dans la majorité du temps, ça clash. Tu sais, dans une audience, par exemple, de libération conditionnelle, on va demander à un détenu, par exemple, Inuit, d'exprimer comment il s'était senti. Mmh. Mais les Inuits, je veux pas faire une généralisation, mais c'est pas des gens qui sont nécessairement enclin à parler de leurs émotions, puis surtout pas à un blanc. Surtout pas à un blanc. Puis des fois, il y a même des mots qui n'existent pas, tu sais, en français. Ouais, tu sais, quand tu parles un mot en français, il y a des mots qui n'existent pas en inou. Donc, tu sais, c'est comme de leur faire avaler un concept de blanc qui, ouais, des fois, en fait, la majorité du temps, ça fonctionne pas. Par contre, et là, tu sais, c'est pas parfait, mais ils ont quand même fait beaucoup d'améliorations dans le sens où, au niveau fédéral, les détenus autochtones sont envoyés dans des pénitenciers autochtones où il y a plus de ressources. Donc, okay. Ils ont des cercles autochtones, ils ont des, tu sais, même sur le territoire du pénitencier, c'est aménagé pour eux. Mais c'est aussi, tu sais, c'est pas surprenant avec toutes les peines minimales que le gouvernement Harper a imposées il y a quelques années que le nombre de personnes racisées détenues ait augmenté. Toutes les white collar crimes ont pas de sentence minimum. Mm-hmm. Donc, c'est clair qu'ils seront pas incarcérés, mais toutes les autres, on parle de drogue, d'armes à feu. Ouais. Ben là, sentence minimale de 1 an, 2 ans, 4 ans des fois. Pis t'es comme, ouais, mais c'est sûr que les pénitenciers sont pleins. Donc c'est ça. Mais pour revenir plus au niveau des détenus autochtones ou Inuits, c'est ça. Il y a quand même plusieurs ressources au niveau de la réconciliation qui ont été mises en place. C'est comme par exemple, il y a l'espèce de spécialisation des pénitenciers, oui, mais il y a aussi des aînés autochtones qui sont des guides spirituels là, qui accompagnent les détenus. Oui, ils sont embauchés par le service correctionnel, mais ils ont quand même une indépendance. Puis les détenus, en tout cas, de mon expérience, les détenus les apprécient beaucoup. Okay. Et ils ont une opinion à offrir.
Super, super. Ben, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même certains accommodements qui sont faits ouais, à ce niveau-là. Puis justement, tant qu'on est sur le sujet un peu des personnes autochtones, je voulais qu'on parle un peu de la règle à due.
Oui.
Donc, c'est une décision de la Cour suprême. Puis c'est aussi maintenant des dispositions du code criminel qui imposent aux juges de tenir en compte de l'histoire, des expériences et des réalités des délinquants autochtones pour déterminer les peines appropriées. Puis l'objectif, dans le fond, c'est de réduire la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements de détention. Puis justement, on sait que les personnes autochtones sont déjà victimes de profilage racial et d'une surreprésentation dans le système. Donc c'est ça, la règle à due tente de pallier à cette problématique. Est-ce que c'est un arrêt qui est souvent appliqué en droit carcéral? Puis, en fait, comment est-ce qu'on l'applique vraiment de manière générale?
Ben, d'abord, c'est un document qui nous provient du procès, dans la plupart des cas. Donc, il y aura un rapport gladu qui va être fait, okay, lors de la détermination de la peine au procès. Et donc, tu l'as mentionné, là, la règle gladu, le rapport gladu, pardon, vient nous en apprendre sur le background, finalement, de la personne qui se trouve devant nous. Et le background, oui, mais aussi du village d'où la personne provient, quels ont été les traumatismes que le village a vécu en tant que communauté et tout. Okay. Et donc, c'est super enrichissant par rapport à l'histoire puis les traumatismes, justement, que la communauté a vécu. Et nous, comment on l'utilise en droit carcéral? Ben, c'est au niveau des libérations conditionnelles, justement. On parle de l'arrêt Gladu, mais il y a l'arrêt Twins de la Cour fédérale en 2016 qui est venu, justement, rappeler l'importance d'utiliser cette information-là quand on l'a, puis en fait, elle vient rappeler aussi la responsabilité des décideurs administratifs, donc la Commission des libérations conditionnelles, c'est un décideur administratif, parce que Gladu, ça parlait vraiment des cours, des tribunaux judiciaires. Donc, on disait, vous avez, les juges, vous avez une responsabilité au niveau de la surreprésentativité, des détenus autochtones. Donc, faites quelque chose, c'est aussi votre responsabilité. Mais là, Twins vient dire aussi, ben oui, il y a les tribunaux judiciaires, mais vous aussi, décideurs administratifs, vous avez un rôle à jouer, puis vous avez un rôle en termes de réconciliation, puis un rôle de réparateur à apporter dans ce processus-là. Et donc, ça fait en sorte qu'on parle du rapport Gladue, on va parler de la communauté d'où la personne provient, mais aussi, puis il y a un article dans la loi sur les services correctionnels et la mise en liberté sous condition, là, bref, la loi fédérale, qui est vraiment prévue pour une remise en liberté d'un détenu dans une communauté autochtone. Ce qui fait, ça, c'est un article 84 qu'on appelle dans le jargon fédéral. Ça fait en sorte que quand... Là, il faut que le détenu le sache, dès son les premiers mois de son incarcération, le détenu peut demander à avoir un article 84. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'être libéré dans une communauté autochtone. Mm-hmm. Par contre, ben, les communautés autochtones au Québec, elles peuvent être très loin. Donc, elles peuvent être très loin, puis elles peuvent être très limitées en termes de ressources judiciaires, oui, mais aussi, juste le téléphone, là. OK? Donc, c'est pour ça que je dis il faut que le détenu le sache très tôt dans le processus parce que ça peut prendre du temps avant de même rejoindre quelqu'un dans la communauté, dans la collectivité. Donc, mais ça, honnêtement, quand le plan fonctionne, c'est les plus beaux projets de sortie. Mm-hmm. Parce que t'as un individu qui, un, a le support de sa communauté, mm-hmm. puis deux, puis j'en parle, j'ai des frissons. t'as le support de la communauté. Puis, deuxièmement, ben il est impliqué à toutes les étapes. Mm-hmm. Souvent, il va y avoir eu plusieurs appels avec le chef de la communauté. Tu sais, il va lui dire, OK, mais par exemple, si tu reviens, j'aimerais que tu t'excuses ou que j'aimerais que tu ailles chasser avec la famille de ta victime, par exemple. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est super, en termes de réconciliation, c'est tellement beau. Mais comme je dis, il faut le faire tôt dans le processus. Si tu arrives, puis ta date d'éligibilité pour une libération conditionnelle, c'est comme demain, puis tu m'appelles, puis tu me dis, moi, je veux un article 84, mm-hmm. Ça sera pas possible, là. C'est vraiment trop court comme délai. Mais c'est quand même un processus qui est beau, là, puis que le service correctionnel fait bien. Mm-hmm. On a donné qu'est-ce qui font bien aussi.
Oui, c'est ça, on va donner les deux côtés de la médaille.
C'est ça.
Peut-être une question plus philosophique. Nelson Mandela disait qu'on ne connaît réellement une nation qu'en visitant ses prisons. Est-ce que vous êtes d'avis que les prisons, ça reflète en quelque sorte la réalité d'une société?
Ben, je pense que oui. Je pense j'ai dit tantôt là, que ça en disait beaucoup sur mm-hmm. comment une société traite les détenus. Ça en dit beaucoup sur ça. Mais c'est vrai, là, je veux dire, je vais faire un bond sur la COVID, mais et je ne sais pas si vous en rappelez ou si vous avez suivi l'actualité en droit carcéral en début de pandémie, là, mm-hmm. c'était l'enfer. Là. Mm-hmm. Je veux dire, on n'avait aucune information. Il y avait, évidemment, ils étaient confinés, mais il y avait des éclosions à l'intérieur des murs mm-hmm. et les personnes incarcérées n'étaient pas capables d'appeler leurs membres de la famille pour leur dire hey, j'ai contracté la COVID, mais je suis correct, mm-hmm. ou j'ai contracté la COVID, mais ça va vraiment pas, puis j'ai besoin d'aide. Il n'y avait aucune information qui filtrait, qui sortait du pénitencier. Il n'y en avait pas plus qui rentrait. Donc, puis nous, ben, les avocats, évidemment, on était tous confinés, on pouvait pas y aller pour des raisons évidentes. On voulait pas. Moi j'ai refusé au début, là, quand la pandémie a débuté. Ça a pris peut-être une ou deux semaines avant que tout soit fermé. Là. Ouais. Nous, en tout cas, au bureau, la ligne est. On a pris la décision rapidement de ne pas entrer dans les pénitenciers pour pas mettre à risque nos clients. Mm-hmm. Mais il y avait encore des avocats qui y allaient. Puis bref, ça les mettait directement, ça mettait directement nos clients en danger. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était l'enfer. Là. Mm-hmm. Moi, j'avais un client qui avec lequel j'ai pas pu parler pendant 27 jours. La fois où il m'a appelé 5 minutes, là, il m'a dit « Je veux que tu textes ma blonde pour lui dire que je l'aime. Je veux que tu textes ma mère pour lui dire que je suis correct. Puis toi, ben je m'excuse, là, genre on va pas parler de mon dossier. » Tu sais, c'était pas une priorité. Puis il avait pas pris de douche depuis genre 21 jours. Là. Mm-hmm. Ouais, fait que tu sais, c'est comme... Tu te dis « OK, ils ont commis un délit, ils ont commis un crime. Ils doivent payer le tort, tu sais, qu'ils ont causé via une peine d'incarcération. Fine. » Mais la personne, elle va sortir, là. Ouais. La personne, elle va sortir avec des traumatismes, avec peut-être un trouble psychologique, un trouble mental qu'ils vont avoir développé de par leur traumatisme. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais. on l'aide pas plus, là. Mm-hmm. Puis on s'aide pas plus non plus en tant que société, là, parce que ça se peut que cette personne-là devienne, tu sais, se mette au crochet de la société, puis ou bien revienne dans le système carcéral, puis qu'on va, tu sais, ça coûte cher un détenu, là. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que souvent dans les parties de famille, on se fait dire, en tout cas pour ma part, plus maintenant, là, mais au début, mm-hmm. là, quand j'ai dit, ah, je suis avocate en carcéral, ils me disaient, oh my God, tu représentes Guy Turcotte, tu sais, c'est comme tous mm-hmm. les pires, tu sais, dossiers, là. Mm-hmm. Puis dit, ah, tu sais, ça coûte, hey, on paye tellement pour les détenus. Ouais, mais si on payait peut-être un petit peu plus ou on utilisait l'argent de meilleure manière puis qu'on donnait des programmes, ben, ça se peut que cette personne-là ne reviendrait pas puis mm-hmm. qu'on repayerait pas pour elle.
Exactement.
Mais tu sais, c'est tout, en tout cas, c'est tout dans le moment présent, tu sais, c'était instantané. On voit pas vraiment au long terme, en tout cas, pas au niveau de la planification correctionnelle. Donc, c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nelson Mandela pour cette phrase-là. Ouais. L'attention, je me souviens, l'attention elle était tellement vive à l'intérieur des murs durant cette période-là que un petit détail, par exemple, j'ai pris ton beurre de peanut alors que c'était pas le mien. Je pensais que c'était le mien, mais c'était pas le mien. Hey, ça peut dégénérer en bataille et tout parce que les gens sont tellement tendus, sont tellement stressés, anxieux que... Tu sais, il y a eu beaucoup de situations comme ça. Puis, ben, la personne se ramasse avec plus, who knows, une nouvelle accusation de voie de fait, par exemple, sur un détenu ou sur un agent correctionnel. Fait que ça va juste, ça empirerait la situation de plusieurs.
Exact. Puis, si ça touchait les personnes incarcérées de cette manière-là, ben, ça nous a touchés, nous aussi, là. Même nous, j'ai vraiment senti, en tant que société, qu'il y avait comme, une espèce de tension, là, n'importe quoi pouvait causer un gros débat social, un gros... Donc, j'imagine même pas pour les personnes incarcérées. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu des problématiques, des choses à améliorer, on va essayer de voir un peu ça serait quoi les pistes de solutions possibles. Bon, bien sûr, on va pas trouver la solution miracle dans un monde aussi complexe, mais on peut quand même y réfléchir. Donc, Selon une thèse, le racisme systémique dans le système carcéral, ça découle parfois d'une augmentation du budget des forces policières et d'une intensification du profilage racial. Et depuis le système carcéral canadien et les forces policières canadiennes, dans le fond, suivent un peu une tendance américaine. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais notamment vers la course contre l'abolissement des gangs et de la drogue. Ce qui pousse les forces policières à peut-être profiler certaines communautés, puis ça crée différents problèmes. Je ne sais pas si vous êtes en accord avec...
Mais oui, c'est clair. Puis tout à l'heure, je parlais de l'imposition, en fait, des peines minimales par le gouvernement Harper avant, là, avant Trudeau. Puis tu sais, il y a eu une corrélation directe là, entre l'augmentation du nombre de détenus racisés. Fait que c'est sûr que... Plus qu'on augmente le budget des forces policières, plus que ça va continuer, c'est clair. Pourquoi ne pas prendre ce budget-là puis le mettre dans le système carcéral à la place et non dans la formation d'agents correctionnels, là, on s'entend? Plus dans les ressources plus communautaires et tout. Tu sais, juste par exemple, il y a plein de formations qui étaient, par exemple, offertes par le service correctionnel du Canada, comme formation en peintre, formation en chariot élévateur, des trucs comme ça. Et ça, c'est coupé. Il y en a presque plus. Il y a quelques pénitenciers qui les offrent, mais c'est coupé. Puis, tu sais, ça peut être retiré à n'importe quel moment, là. Le cégep. Pouvez-vous donner accès au cégep aux détenus? Je sais pas. C'est pas plus compliqué que le secondaire, là, à donner. Au Québec, il y a juste un pénitencier qui donne le cégep. Fait que si tu corresponds pas à la population du pénitencier, ben, tu peux pas y aller. T'sais, après, il y en a qui font des cours à distance universitaire, mais il faut d'abord que tu aies fait ton cégep. Fait que, c'est ça. Je pense que, définitivement, il y a les peines minimales, c'est clair que... Ben, on le voit aussi, les tribunaux en déclarent inconstitutionnel vraiment souvent. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je pense que il faut juste repositionner l'argent puis le mettre dans la formation. En place, c'est une directive du commissaire qui a été mise en place en janvier cette année, en 2021, sur délinquants ethnoculturels, services et interventions. Donc, c'est un groupe qui est maintenant permis non seulement permis, mais qu'on devrait avoir dans chacun des pénitenciers, qui est à titre de représentant ethnoculturel. Donc, ça peut être un détenu qui doit le faire. Mais tu sais, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais sur la ligne avec un client du pénitencier Centre fédéral de formation à Laval. Il me disait, ben, j'ai fait une plainte à la direction parce que il y en avait pas de comité. Le comité avait jamais été mis en place. Puis lui, ben, il dit, ben, j'ai la directive ici, ça dit qu'on doit en avoir, fait que c'est où? Et la directrice a dit, ben, parfait, tu es le comité. Tu sais, c'est comme, non, mais c'est comme, crée-le, tu sais. Ouais. Mais il a quand même fallu que le détenu le fasse par lui-même. Fait que c'est des nouvelles, il y a des outils qui sont mis en place, c'est pas parfait, mais voilà, tu sais, il faut des gens qui soient mobilisés puis qui veulent se battre constamment dans un système comme ça, parce que... malheureusement, le fait qu'on soit pas beaucoup d'avocats, avocates qui pratiquent à temps plein ce droit-là, mm-hmm. ben ça fait en sorte que les batailles doivent être constamment recommencées. Mm-hmm. Parce que c'est, tu sais, ils te le donnent, mais ils te le reprennent un an plus tard. Non, mm-hmm. c'est ça, vraiment pas, là, vraiment pas. Puis surtout avec la pandémie, il y a très peu d'avocats. Ben déjà, le nombre était très mince, là, d'avocats qui ne faisaient que ça, mais le nombre a diminué encore plus. Fait que ça fait en sorte que ben les nouveaux avocats, puis c'est normal, là, t'es sur le terrain, t'apprends, mais ils savent pas où ils s'en font passer, t'as pas le droit de faire telle affaire. Mais turns out, oui, t'as le droit, c'est juste qu'il faut que tu te battes ou parce que t'es nouvelle dans le domaine, puis les agents le savent, ben, ils vont s'essayer, puis c'est ça. Mais oui, il faut toujours... se battre, puis jamais arrêter, puis surtout pas arrêter quand quelqu'un dit ah mais c'est comme ça qu'on fait, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on fait. Il faut toujours se questionner.
Absolument. Mm. Merci beaucoup Maître Paquette pour votre temps, pour votre expertise, pour vos belles anecdotes. C'est vraiment vraiment apprécié. Puis merci à tout le monde d'être à l'écoute de ce troisième épisode, et puis on se revoit pour le prochain.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web, ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org. ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook. Doum 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 fa la 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 la. Fa la 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 la, vivez-vous les mains.
Vous connaissez la chanson? Célébrez avec vos proches, mais continuez de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement et maintenez une distance d'un mètre. Un message du gouvernement du Québec.
I went to residential school. I was just 8 years old.
Gayla Kassler. My name is Gennargi O'Sullivan of the Tlaalitsis Nation, originally from Turner Island. You're listening to Wendell exploring the legacy of Indian residential schools.
Our next speaker here is Viola Thomas. She is also a residential school survivor.
Part of our obligation at where I work with the Truth and Reconciliation Commission of Canada is to inform Canadians on the truth. But I believe that as more Canadian people understand that this was Canadian law and Canadian policy, and that Canadians need to take responsibility for their shared history, I also believe that Canadians have a responsibility to resonate reconciliation with the First Peoples of this country. And what did we learn? when we went to the school. We learned how to be bullies, how to be mean to each other, how not to love, how not to feel a great sense of pride of who you are and where you come from. I learned about racism, and I didn't know what that was. I really didn't know what racism was. I learned about sexism, and as a young girl, I didn't know about sexism. There were many forms of abuse, not just the physical, but the intellectual abuse. To always be reminded that you're stupid and that you're nobody. To be told by your teachers and by the folks from the church that you're a savage, you're a squaw. And I just want to close with one of my heroes, a woman by the name of Winona LaDuc. And I offer this to all of our brothers and sisters who were abducted to residential schools. And I offer this with a good heart to non-Indigenous people so that they will pick up the torch. And this is what she says. There is no social change fairy. There is only change made by the hands of individuals.
You have just heard At Window exploring the legacy of Indian residential schools. Both my mother and I attended St. Michael's Residential School in Alert Bay, BC. This is a part of a larger project called Resonating Reconciliation that engages community radio as a tool to help define what reconciliation is. Resonating Reconciliation is meant to help reconcile all Canadians to their shared history. This is the work of the National Campus and Community Radio Association, the Red Jam Slam Society, and this station. Resonating Reconciliation is also supported by the Indian Residential School Survivor Society and is funded by the Truth and Reconciliation Commission. To hear more, go to www.ncra.ca/resonating.
Emergency, emergency.
We obey the one.
We're gonna exterminate you now.
We will get our power.
We obey the one. We are a superior being.
Daleks, listen to CKUT 90.3 FM in Montreal.
Me no fan ten nigga bad mind. Laugh in me face like a sunshine. Two shot delegate for me drum line. Then I want see me win, then I want mine. Only time till I hit up me hotline. Call me no want give, no I want time. Chop up me soul in a two that a half time. Can't make no pussy cross over me guideline. When they ask me no day, yeah, who you try for shame around me neighbors. Call us bamboo in nature. When I need no gun for keep safe us. On a mission me day right now. Fi feed my granny and me mother how. If I chose that A-Force route, I probably would have been pon the DG grounds.
Now me can't go there. Life too short, bad man, I fi go well. No, we can't dare judge the one who saved us. Lose if I try to take, we cannot play us.
But not this all and take them way down. Way down, tell us that me been also from way young. Grill up with me granny, never miss one, me air strong. 8 years old, I'm me bad like a strong rum, boy. This year for my team. Grad send me mommy, they support my dream. Quit off he walk on the clock time thing. Cause daddy can't pay no bill and buy me a drink. Ever to pick up the Glock 19.
Nigga walk on the con and sell white thing.
Whoa. Me out to ball under my sheets when the night times are come. Pray out to God so me get my family out of the slum. We a beg your father for take away the pain, let it just be done. Pray out to God so me get my family out of the slum. In my goal, yeah, mountain road of the solidest.
In my goal, yeah, mountain road of the solidest. In my goal, yeah, mountain road of the solidest. In my goal, yeah, mountain road of the solidest. Inna my Goliath, mountain road at the solid air. Life too short, bad man, nothing go away. No, we can't dead judge, are the one who saved us. Lucifer try to take, we cannot play us. No, we can't go there. Life too short, bad man, nothing go away. No, we can't dead judge, are the one who saved us. Lucifer try to take, we cannot play us.
Jillies, me I move on me top boy Achilles. Couldn't even trust my widow, I know that she whipped me just for the pennies. Pretty and proper, that's Jenny, get cash from me bro, inna that telly. How could you do this to a man like me, toxic, messy and tidy? Should I listen to mum, bag up the wrong thing out of many? It's crazy how life's not golden when jealousy and love gets fetty. Should I tell I money wasn't with it, instead of playing for me like gimmick? Don't stretch it, done that thing, I'ma let you go right now, girl, dead it.
Don't mind just being alone, I keep my keeps at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my L-O-K, still can't fuck with L-U-V. But she that P-Y-T, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind.
Yo, I don't study them ting, I feel clean up me life that vim. Not too many boys go admit that toxic games come from within. The hardest time no win, knocked out panic cost off that gin. I'm sorry, I'm sorry, I wanna be in love, no hurry. When we used to dip on that phone in a late night, man was silly but lucky. Top me Tiffany, slot me top, girl, like goes me Chucky Duppy. Rewind that time, panic rolly, I am a better man, that's for surely. Lost in the Angeles, I man met for me, that's only.
Don't mind just being alone, I keep my keeps at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my L-O-K, still can't fuck with L-U-V. But she that P-Y-T, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind.
Don't mind just being alone, I keep my keys at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my L-O-K, still can't fuck with IUV. But she that P-Y-T, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind.
Inna my ends, football player, the dreams man had from young. After man practice, I stole me a grub, Kaya roof just get pelt down. Take off with a speed, come me fade to the vagrant man, get mad pan we cunt.
Scatter, scatter, run, me no say the enemy, I wish say we burn. Hold on the nigga, I don't mind, girl, I go there with the flavor. Let me follow, she the wrong on the corner. Better say she a live wrong, I check her. Way away from my man, take her. Put me back out, the sauce here later. Scatter, scatter, run. To me enemy, I wish to me burn. Oh Lord, burn when you say fire burn them. We no care but we no one say. Mash up the place like 9 morning. Inform our boy feet dead. Them boy we no represent. Can't come round me no way. You no match my element. Me inna my element. Top shotter with the wanted hooligans.
My boat a yard like a pelicans. Me not so let me deal with the youth men. Not true, we attend no loose ends. When your soldiers are them on the east end. Not this end, I got lost on the deep end. Put that boy in the shark hole tank. Let me see if he chat up like a big man. Nobody now move like I man. I'm broke out of them gorilla Tarzan. Hold on, call me the goat man. Shepherd the OG old man. As a young and I always had to work real hard to get to the coins and the tokens. Never pay mine to the broken, unopened humans. Check for yourself. It's an iron on the sky. Coming to you live and direct from the studio. 6 a.m. I don't know how the DJ them go. Turn up the team. Boy. Shut up. You don't know.
Hold on there, nigga. And I might get a go there with the flavor. Let me follow she the wrong on the corner. Better say she a live wrong and check her. Way away from my man take her. Pull me back out, this talk to you later. Scatter, run. Me no see me enemy, I wish see me burn. Boy, oh Lord, but mine say fire upon them. We no care but we no one say. Mash up the place like 9 morning. She a live wrong a checker. Way away from my man taker. Pull me back out, this talk to you later. Scatter, run. Me no see me enemy, I wish see me burn.
previously broadcast program.
The FM band is from 88 megahertz up to 108.
You've got this frequency. We're going to call you CKUT. You've got this frequency, 98.3. That frequency is what you're picking up when you tune that radio.
Very impressive.
You can sit on the moon and look like they pick up CKUT, clear as a bell.
Fascinating. Your analysis seems logical.
CKUT is on the air.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.
The following is a previously broadcast program.
From the Advocate magazine, in partnership with GLAAD, this is LGBTQ&A. I'm Jeffrey Masters, and on the podcast recently, we've been talking a lot about HIV with people like Peter Staley, Sarah Schulman, Anne Northrup,